Bonsoir. Système judiciaire congolais, le ministre de la Justice, Luzolo Bambi, dénonce une justice qui frappe plus les petits citoyens. Le ministre de la Justice insurge contre ce qu'il appelle une justice à deux vitesses en RDC. Il a fait cette déclaration hier mercredi à Radio Okapi. Sur quoi se base le ministre de la Justice du gouvernement central pour dénoncer cette justice à deux vitesses? Où en est-on avec la réforme de la justice congolaise? C'est le thème de cette émission Dialogue entre Congolais. Et pour le débat, nous accueillons M. Benoît Yulama, il est juriste et cadre de l'AMP. Le magistrat Sambai Mutenda, il est président du SINAMAC, syndicat national des magistrats du Congo. Et Maître Mukendi Jean-Joseph, voilà. Il est bâtonnier national honoraire, avocat près la Cour suprême de justice. Il est aussi cadre de l'UDFS. Bonsoir et bienvenue à tous dans cette émission.
Bonsoir.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Système judiciaire congolais, le ministre de la Justice, Luzolo Bambi, dénonce une justice qui frappe plus les petits citoyens. Sur quoi se base le ministre de la Justice au gouvernement central pour dénoncer cette justice à deux vitesses? D'après le ministre, les prisons de la RDC sont peuplées en majorité des petits citoyens, alors que selon lui, il y a des potentiels judiciables dans la haute sphère de l'administration publique et dans des bureaux UP des grandes villes du pays. Déclaration faite par le ministre de la Justice à Radio Okapi, c'était hier mercredi, après l'expédition vers Kisangani d'une cinquantaine de jeunes délinquants communément appelés Kuluna. Le ministre appelle les magistrats à faire activement leur travail, notamment en recherchant les infractions dans les milieux des riches et puissants de ce pays. Pour Luzolo Bambi, le ministre de la Justice, cela se fera sans interférence politique. On l'écoute au micro de José Deschartes Menga.
Je le relève et je le dis au magistrat. Chaque fois j'étais à Lubumbashi, j'étais à Likasi, j'ai visité toutes les prisons, autant à Kinshasa. L'impression que j'ai, c'est que des personnes qui sont en détention sont des personnes faibles. Je ne vois pas assez de personnalités importantes. Des personnalités, même au niveau de la fonction publique, du grade du chef de division jusqu'en haut. Il faut que la justice à deux vitesses s'arrête. Mais ça, encore une fois, le ministre le dit, mais c'est au magistrat d'agir en toute indépendance pour que le peuple comprenne que personne n'est au-dessus de la loi. Il n'y a pas d'interférence politique. Et donc moi, à mon avis, moi, je crois que l'enjeu d'aujourd'hui, c'est au magistrat. Alors, au magistrat, au nom du peuple, c'est au magistrat de faire en sorte que la justice à deux vitesses cesse et que les actions, notamment de corruption, puissent être diligentes.
C'était le ministre Luzolo Bambi. Je signale que nous avons tenté en vain, justement, d'inviter le ministre comme invité dans cette émission, voir ses conseillers. Personne du cabinet n'était disponible pour ce débat. Monsieur Benoît Yulama, première réaction après cette. Ces mots du ministre de la Justice.
Oui, la réaction que j'ai pu apporter par rapport à l'intervention du ministre de la Justice, qui est mon ministre, c'est de rassurer d'abord l'opinion que c'est une première dans l'histoire de ce pays où un responsable politique accepte et arrive à reconnaître publiquement le fait d'un organe que nous avons dans notre pays, surtout l'instrument que nous avons, qui est appelé l'instrument ou l'organe judiciaire. Et de deux, il faut souligner que la plupart des temps, ce qu'il a dénoncé publiquement, c'est un fait qui est constaté. Et vous remarquerez que la plupart des temps, les puissants sont à l'aise, sont à la cité, mais ce sont des gens qui, par le fait d'avoir volé un pain, un beignet, se retrouvent à Makala, mais régulièrement, ceux qui ont la puissance est soit financière, soit un statut quelconque, sont ceux-là qui continuent à courir à la cité sans pour autant donc se retrouver en prison. Donc c'est un constat tout à fait objectif qu'il faut certainement apprécier et encourager le ministre qui s'est déjà engagé dans une réforme à pouvoir aller de l'avant et s'il m'était posé la question personnellement, je crois bien que le fait même que nous ayons dans notre constitution la séparation du pouvoir et l'indépendance de la magistrature, c'est un fait qui va aussi créer beaucoup de dégâts, puisque politiquement, le ministre serait, et même administrativement, serait limité, étant donné que la constitution lui empêche de pouvoir travailler dans le sens de pouvoir empêcher ou arrêter les décisions que certains magistrats prennent régulièrement sans pour autant se rendre compte ou aller de bien à l'évidence que ce qu'ils sont en train de faire n'est pas conformé à la loi. Donc, je crois bien que c'est ça le travail que le ministre doit faire et je le félicite et je l'encourage pour aller de l'avant.
Voilà, donc vous saluez cet acte du ministre, du moins sa déclaration.
Affirmatif.
Maître Jean-Joseph Foukini, bonsoir.
Mais il n'y a rien à redire à la déclaration du ministre de la Justice. Il va de soi qu'il y a une justice à deux vitesses depuis longtemps.
Et donc, ce n'est pas nouveau.
Ce n'est pas nouveau. Ça, je crois que c'est un constat qui a été fait de plusieurs temps. Le plus important, je crois que le ministre doit aller plus loin. Pourquoi y a-t-il une justice à deux vitesses et que faut-il faire pour que cela cesse? Et là, je dois dire que, contrairement à ce que dit son Excellence le ministre, il y a toujours une interférence très forte de l'exécutif dans le déroulement de la bonne justice. Et là, ce n'est peut-être pas le lieu, mais plusieurs cas peuvent être relatés. Il y a des influences politiques, des influences tout courtes. Et je pense que là, il y a lieu donc de pouvoir interpeller un peu tout le monde. Et dans ces influences, nous cessons de parler aussi de l'influence financière. Donc, ces problèmes-là sont connus. Il y a des influences. Il y a le magistrat est empêché d'exercer son métier selon sa conscience, soit par les pressions politiques, soit par les pressions financières. Je crois que à l'état où nous sommes, il est important, surtout pour le ministre de la Justice, et là je suis d'accord avec mon interlocuteur,
oui, Benoît.
Avec Benoît, l'indépendance de la justice, je peux dire que cette indépendance-là de la magistrature, elle est non négociable. Je pense que le moment n'est pas là de s'inscrire pour modifier cela, parce que c'est un combat dans lequel beaucoup de personnes se sont inscrites, et c'est une bonne chose. Alors, mais le grand problème, c'est que les textes sont là. Il y a des bons textes. Les magistrats sont dotés d'une bonne indépendance. Qu'est-ce qui fait que la magistrature ne marche pas? Qu'est-ce qui fait que nous n'avons pas une justice, que nous avons une justice à deux vitesses? C'est dans ce combat-là que l'exécutif doit pouvoir s'investir. Et là, tout au long du débat, nous aurons l'occasion de l'approfondir, puisqu'il y a une part que l'exécutif doit remplir. Est-ce que le ministère de la Justice a son programme, le projet de remplir ce mandat-là? Il y a une part aussi que le collectif normal doit pouvoir faire. Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui est conçu pour le faire? Il y a une part aussi des magistrats. Parce que dans tout ça, quand on parle maintenant de l'indépendance de la magistrature, mais l'indépendance signifie aussi qu'ils doivent s'autogérer. Est-ce que cette indépendance ne consacre pas une certaine impunité, une couverture générale? Ce sont là les problèmes de fond, sur lesquels on devrait se pencher chacun à ce qui le concerne. Voilà, sinon, globalement, l'approche du ministre, elle est bonne, mais le ministre doit aller plus loin. Ce n'est pas le ministre qui doit se plaindre. Lui doit nous donner des solutions. Et quelles sont les solutions que son Excellence nous donne? Et là, je crois que c'est la question qu'on lui pose.
Voilà, malheureusement, le ministre n'est pas là. Il devait y répondre. Magistrat Sambai Moutenga, vous êtes en ligne.
Ok, je pense que ce que je peux bien dire, oui, suite à tout ce que les autres interlocuteurs ont dit tout à l'heure, moi, je dirais que, au lieu de parler d'une justice à deux vitesses, je parlerais plutôt d'une justice privatisée. S'agissant toujours du discours du ministre, je me pose des questions. Est-ce qu'il se plaint? Est-ce un constat d'échec? Est-ce le souci de bien faire? Je me rappelle ce que je lui avais dit quand il venait d'être nommé. Je lui avais dit, vous avez une longue tâche. Et je me demande si ceux qui vous ont confié la mission, qui vous ont confié la justice, vous donneront les mains libres. J'ai comme l'impression que maintenant là, le ministre vient de se rendre compte que la justice du pays est privatisée, c'est-à-dire, dans ses propres propos, que seuls sont concernés les démunis.
Parce
que lui-même, le ministre, en disant ce qu'il a dit, il sait où se trouve la classe ou la caste de ceux qui ne sont pas punis. Nous avons à longueur des journées des détourneurs. Nous avons à longueur des journées des corrompus et des corrupteurs. Et ce sont ces gens-là qui sont constamment promis. Il change de poste, il devient secrétaire de ceci, il devient président de cela, ainsi de suite. Et ça, le ministre a fait le constat. Au point que je me demande si aujourd'hui ce qu'il dit là, c'est un constat d'échec, ou c'est encore un discours en plus.
Magistrat,
de l'indépendance du pouvoir judiciaire, c'est une bonne chose. Mais lui, le ministre, il est là. La loi portant conseil de la magistrature a été votée. Une réunion a été tenue précipitamment, dans les conditions que vous connaissez. Et il était prévu, et il est prévu que le premier du mois d'avril, l'Assemblée générale ordinaire du Conseil supérieur se tienne. Est-ce que cela a eu lieu? À l'instar de ce qui se fait au gouvernement qui s'est réuni quand il en a envie, à l'instar de l'Assemblée nationale ou du Sénat qui se réunissent quand ils en ont envie. Donc vous comprenez quelque part là-bas qu'il y a un discours, et moi je dois dire encore un discours de plus.
Le magistrat Samba, le ministre, a dit que c'est vous qui avez la tâche de remplir, de jouer ou remplir votre rôle.
Je ne sais pas si vous m'avez bien suivi. Je parle d'une justice privatisée. C'est une justice qui exerce seuls ceux qui ont les moyens de leur politique. Aujourd'hui, là, vous dites que les magistrats ne font pas ce qu'ils doivent faire.
Le ministre l'a entendu.
Les magistrats sont placés dans les conditions où ils peuvent bien administrer la justice. Je dis non. Le ministre sait, et je vous donne un petit exemple, que aujourd'hui, là, les magistrats se battent pour des arriérés, des reliquats de rémunération qu'on envoie à la dette intérieure. C'est une histoire, c'est un scandale dans le monde. On n'a jamais entendu parler d'une rémunération qu'on envoie à la dette. Alors qu'une rémunération, c'est une dépense urgente, indispensable et vitale. Donc, ça veut dire quelque part que c'est bien d'accuser l'autre, mais on ne veut pas s'accuser soi-même. Parce que le ministre sait que la magistrature peut très bien fonctionner si on met les magistrats dans les conditions. D'abord, on leur donne l'instrument de travail convenable, les infrastructures, les moyens pour acheter les convocations, les exploits. Ces moyens-là, élémentaires, sans même parler de rémunération.
Je crois
que les rémunérations sont aussi importantes.
On va revenir.
C'est un discours que je ne peux pas gober personnellement.
On va revenir à vous, parce que même Maître Mukindi Jean-Joseph a dit que vous avez aussi votre part à jouer. On va revenir à vous, mais d'abord avec Benoît Yulama. Vous êtes juriste et cadre de l'ANP. Qu'est-ce que vous répondez lorsque par exemple, le magistrat Samba, lui qui se pose des questions, hein, il se demande si le ministre de la Justice, finalement, c'est un constat d'échec, il se plaint ou c'est plutôt un souci de bien faire. Vous avez mieux compris le discours du ministre?
Oui, mais j'ai bien compris le discours du ministre Luzolo.
Comment vous le qualifiez?
Oui, c'est un discours qu'il faut féliciter, qu'il faut soutenir, puisque même si l'État congolais est arrivé à engager des réformes assez importantes dans le domaine de la justice, mais il faut préparer l'homme. L'homme a des problèmes. Et je suis étonné d'attendre que le magistrat Samba, que j'ai déjà rencontré plusieurs fois dans d'autres émissions à la télévision, et lorsqu'il dit que la justice est privatisée, il est en train de se moquer de lui-même, puisque lui, il est magistrat, il est juge, il est censé dire le droit. Donc, la personne qui a la capacité au terme de la loi de pouvoir dire le droit en toute objectivité, mais si certains cas sont déjà dénoncés, sont déjà vus, aussi au vu, donc on voit tout le monde, presque la plupart des citoyens le déplorent, et c'est qu'il y a des cas qu'il faut certainement réparer. J'aurais souhaité que lui, en tant que magistrat, donne conseil à ceux-là qui sont en train de pratiquer des comportements extravertis par rapport au fonctionnement normal de la justice, mais c'est regrettable que ça soit lui qui est syndicat des magistrats, lorsque à l'époque Moïse avait Kabila, avait chassé les 315 magistrats, il était de ceux-là qui soutenaient ces 315 magistrats. Aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, lorsqu'il y a eu la rentrée judiciaire. Vous avez entendu comment les bâtonniers nationaux, il y a déploré la vitesse à laquelle les certains magistrats se donnent aujourd'hui pour récupérer les biens détruits, condamnations arbitraires et tout ce qu'il a déploré. Ça, c'est il ne me dira pas autre chose que ce que le magistrat, donc. Donc, je crois qu'il a...
Vous pensez que les magistrats ne jouent pas leur rôle comme il faut?
Mais pas correctement. Il y a certains magistrats qui se comportent très bien. Si les ministres est arrivé à le dire, c'est qu'il y a un constat, mais il faudrait que nous puissions corriger ensemble pour que, au moins, la situation que nous avons au pays change, puisque sans la justice, on ne saura pas reconstruire le Congo dans des conditions très bonnes. Et la plupart des temps, il y a des arrangements, il y a des libérations inexplicables. Ce sont des faits qui sont là, connus, que nous souhaiterions, que Sambaï et tous les autres que nous reprochons de comportements antipatriotiques, de pouvoir non seulement se reprocher eux-mêmes, de pouvoir se corriger pour qu'ensemble nous arrivions à bâtir un Congo plus fort et plus beau qu'avant.
Oui, mais il y a des auditeurs qui rejoignent un peu le magistrat Samba. Il y a Kaungu Ernest qui nous écrit depuis Londres. Il dit, depuis qu'il est au pouvoir, c'est seulement maintenant qu'il constate, là il parle du ministre de la Justice, qu'il constate que la justice est à deux vitesses dans mon pays et qu'il faut agir. Le ministre a fait cette déclaration suite aux pressions, ça c'est l'auditeur qui le dit, suite aux pressions exercées par le passage du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a constaté que les crimes restent impunis au Congo. Le discours du ministre est un divertissement, c'est lui, pour la population. Demain, rien ne changera car les trois pouvoirs, politique, judiciaire et économique, sont liés par des intérêts et d'influence au Congo. Qui va accuser qui d'avoir dérobé les meilleurs morceaux quand on mange tous dans la même assiette? Qu'est-ce que vous pouvez réagir à un mot, hein, parce que
oui, un mot, je dois rapidement dire que l'auditeur n'a pas suffisamment d'informations. Le prédécesseur du ministre actuel est Zolo, et le bâtonnier, lui aussi bâtonnier, le vice-premier ministre Bakawa, a sanctionné un certain nombre de magistrats, et parmi les contestateurs de l'époque, c'est le magistrat Massambaï qui parle aujourd'hui, qui a fait l'éducation à la presse et nous avons suivi. Et si on voudrait aller de l'avant, je ne vois pas comment on peut empêcher les ministres de faire ce travail. Je crois que c'est pour l'intérêt général. Il n'a aucun intérêt. Il a commencé à sanctionner. Il continue à le faire. Je crois bien que s'il m'était demandé personnellement de changer la constitution, je changerais ses bonnes de ministres.
Ok. Voilà, Maître Mukendi, finalement, les magistrats, quelle est leur part finalement?
Oui, sans chercher à personnaliser le débat sur une personne ou l'autre, il faut dire.
De façon générale.
De façon générale. Il faut essayer de positiver les choses. La démarche du ministre de la Justice, comme celle, il est d'ailleurs sur les pas du vice-premier ministre Mutombo, c'est une démarche qui doit être encouragée et elle est bonne. Mais je pense que le magistrat Samba a raison quand il dit que la justice est privatisée. Moi, je suis un praticien du droit. Je suis avocat de profession avant tout. Vous savez qu'on a de la peine lorsque vous amenez quelqu'un au parquet et que la personne a raison. Mais le magistrat est de bonne foi, mais vous voyez que le magistrat n'a même pas du papier, n'a même pas de femme. C'est là où j'ai dit, il faut que le ministre joue d'abord son rôle.
Mais le magistrat n'a pas de papier, n'a pas de femme, on le voit en mercenaire.
Juste, oui, effectivement, mais pourquoi ça? Parce que son salaire n'est pas payé. Et je crois que pour pouvoir le punir, il faudrait d'abord que l'exécutif joue son rôle. Et l'exécutif ne joue pas son rôle. Et là, le ministre de la Justice, au lieu de venir se plaindre, devrait pouvoir nous donner le plan qu'il a pour améliorer les conditions d'exercice de la justice de façon générale. Ce n'est pas normal qu'une personne démunie qui arrive dans une juridiction puisse apporter, ne fût-ce que déjà la charge et le papier. C'était l'euphémisme quand j'ai dit rien que la farde.
Donc, vous dites que le gouvernement ne donne pas suffisamment de...
Non, il n'y a pas de moyens. Il n'y a pas de moyens dans les tribunaux. Et moi, je suis dans les tribunaux tous les jours. Vous avez des magistrats de bonne foi qui veulent rendre une bonne justice. Vous savez, à l'intérieur, n'allons pas très loin. Ici, à Bandundu, ce matin, sur Radio Capi, vous avez parlé du tribunal de Bulungu. J'ai déjà été là. Mais vous savez que là, ils n'ont pas de code. Je suis allé là, déjà qui quitte, ils n'ont pas de code. Voilà les équipements essentiels pour le travail du magistrat, pour bien dire le droit. Ça, ce n'est pas le magistrat qui doit les amener, bien sûr. Chacun doit avoir sa documentation personnelle, mais il faut des bibliothèques. Quand vous allez dans des grands palais de justice, hier, on nous a vu monter le ministre à Lubumbashi. Le palais de justice de Lubumbashi, comme le palais de justice de Kananga, conçu avant les dépenses, vous trouvez quand même une documentation élémentaire.
Non, mais maître Jean-Joseph, est-ce qu'il faut que le magistrat ait du papier et de quoi travailler pour que des personnes nantis soient en prison comme
c'est un euphémisme, mais c'est une invitation. Quand le magistrat n'a même pas de moyens d'action, quand le magistrat n'a pas
de salaire,
il y a une invitation en quelque sorte à la corruption, pour dire le mot. Il y a une invitation à la corruption. C'est ainsi que même les magistrats, les meilleurs, ils peuvent tomber, et je pense que là, il faut d'abord jouer le premier rôle avant de pouvoir taper sur eux. Mais là, je crois que quand je suis conséquent, et je dis que les magistrats ont une bonne part, il y a un problème aussi de vocation. Ne deviens pas magistrat qui veut, comme ne deviens pas journaliste qui le veut, il y a une sélection. Et cette sélection-là n'est pas faite. Même les promotions, elles sont faites sur quelle base ? Sur une base sentimentale. Vous trouvez des magistrats qui restent dans des fonctions pendant 10 ans, pendant que leurs collègues avec lesquels ils sont sur les bancs ont déjà franchi 3-4 promotions, deviennent leurs supérieurs et leurs ennemis. Donc, il y a là des problèmes réels sur lesquels le ministre doit se pencher, sur lesquels le conseil supérieur de la magistrature doit se pencher. Et c'est avant de pouvoir jeter là-bas la pierre sur les magistrats corrompus qu'on règle ce genre de problème. Alors, à ce moment-là, on peut maintenant sévir comme on veut. Maintenant, on vous dit qu'il faut sévir, il faut les chasser. Mais vous allez chasser des personnes à qui vous n'avez pas donné des moyens d'action. Et là, moi, je dis, et je l'ai toujours répété, il y a des bons magistrats, on doit les encourager, mais il y a des magistrats véreux, il faut pouvoir trouver les moyens pour les chasser.
Le magistrat Samba, vous intervenez, et puis on va passer, on va prendre une illustration hein, sur ce qui se passe sur le terrain avec le magistrat.
Oui, je pense que il faut demander à l'intervenant qui est de tout à l'heure là, c'est Monsieur Yuma, vous avez dit.
Benoît Yulama.
Oui, Benoît Yulama. Je pense qu'il doit cesser avec le genre de discours partisan. Je sais qu'il est quelque part dans un cabinet politique, il fait ce qu'il fait, je ne lui en veux pas pour cela, mais il doit, avant d'intervenir sur le domaine de la justice, essayer de savoir les tenants et aboutissants d'une bonne administration de la justice. La justice dans un pays à son prix. Dans n'importe quel pays, la justice a son prix. Le magistrat a sa part de responsabilité, le gouvernement a sa part de responsabilité en tant que pouvoir gestionnaire de la chose publique. Au même moment que le même gouvernement dote les autres institutions des moyens de fonctionnement nécessaires pour l'accomplissement de leur tâche, le même gouvernement doit faire autant pour la justice. Comment peut-il nous expliquer la disparité, lui qui est conseiller dans un ministère? Est-ce qu'il sait qu'il touche 3-4 fois plus qu'un magistrat qui a déjà exercé pendant 30 ans comme moi? Lui, est-ce qu'il le sait? Bon, est-ce qu'il faut pour autant incriminer seulement les magistrats? Je pense que Maître Moulumba l'a dit tout à l'heure, il y a de très bons magistrats, des gens dignes et de bonnes familles qui sont venus dans la justice pour secourir les autres. Mais ces gens-là sont cabinés par le pouvoir qui les utilise mal. Vous avez donné, M. Mkenga a donné l'exemple des magistrats qui font 10 ans dans le même grade et qui voient les jeunes gens qu'ils ont reçus comme stagiaires grimper sans avoir ni l'autorité morale ni l'autorité scientifique nécessaire.
Oui, mais est-ce que
c'est... Pour lui, sur base d'une appartenance politique, d'une appartenance tribale, c'est le cas.
Oui,
je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez comprendre davantage.
Excusez-moi,
monsieur le président, s'il vous plaît.
Allez-y.
Vous m'avez invité pour. Alors, prenez la peine de m'écouter.
Allez-y.
Ok.
Allez-y.
Je suis président du tribunal de commerce du Chassa-Gombe. Ce tribunal s'est battu, ou je me suis battu pour que ce tribunal ouvre ses portes. Et ce tribunal fonctionne avec des juges consulaires. Est-ce que M. Yulam peut, est-ce qu'il sait que les juges consulaires qui travaillent là-bas, ça fait 3 ans, qui n'ont jamais reçu de jeton de présence, et ces gens viennent? Est-ce qu'il le sait? Est-ce qu'il sait que quand le tribunal a commencé à fonctionner, il a quadruplé les recettes de l'État? Et que les gouvernements informés ne font rien pour ces gens-là?
Oui,
et je vous le fais, c'est de distraire les gens.
On vous a compris, magistrat Sambaï, mais est-ce que c'est cela qui vous empêche d'envoyer des personnes
pour amener dans un débat de cet ordre?
Non. Répondez quand même à ma question. Je dis, est-ce que c'est cela qui vous empêche d'envoyer des gens puissants en prison? C'est ce que le ministre a dénoncé.
Tout ça, je suis bien d'accord. Je vous ai dit que
là-dedans, il y a des magistrats qui sont répréhensibles. Je n'ai jamais nié cela. J'ai toujours affirmé cela. Et je dis, pour mieux faire, montons un programme cohérent contre l'impunité, contre la corruption. Et ce programme passe par l'identification des causes de la corruption et de l'impunité, qu'on y mette fin. Voilà ce que j'ai toujours préconisé, moi, comme démarche. Au lieu de faire simplement des discours sans chercher à identifier les causes.
Voilà, on va poursuivre cette émission. Système judiciaire congolais, le ministre de la Justice, Luzolo Bambi, dénonce une justice qui frappe plus les petits citoyens. Où en est-on avec la réforme de la justice congolaise? Reste avec nous pour la suite et c'est juste après ce rappel de nos contacts.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant 081 890 66 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
Où en est-on avec la réforme de la justice congolaise? Nous allons prendre une illustration au niveau du Katanga où on fait état des irrégularités à la prison centrale de la Kasapa à Lubumbashi. 68% des pensionnaires sont en détention préventive. C'est le constat fait hier à la Kasapa par le président de la Cour d'appel du Katanga. Il était accompagné du procureur général, du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République. Sur 800 prisonniers, 550 attendent encore leur jugement. Le procureur général affirme que ce nombre élevé des personnes en détention préventive est dû à la lenteur administrative de l'appareil judiciaire. Michel Kina, procureur général du Katanga, annonce les mesures prises pour remédier à cette situation. Il est au micro de Paul Amunanga.
Nous avions décidé ensemble, en ce qui nous concerne le parquet, que moi, personnellement, je dois faire les suivis de toutes ces détentions avec le procureur de la République, tandis que les dossiers qui sont devant le tribunal, le premier président a décidé qu'il y ait chambre foraine, c'est-à-dire que ce soit le tribunal de grande instance ou le tribunal de paix, ils doivent descendre cette fois-ci à la prison. Statuer sur le cas des détenus préventifs sur place, même s'il faut former deux ou trois chambres, mais ça sera de cette façon-là, nous allons décanter tous ces dossiers qui sont en détention. Dans la plupart des cas également, il y a un retard. Parfois, on envoie les dossiers en fixation. Le directeur de prison ne dispose pas des requêtes qui lient le tribunal. Et le prévenu reste comme si son dossier est en cours, alors que le dossier est déjà terminé.
Alors, Benoît Ayulama, comment réformer la justice congolaise pour éviter ce genre de lenteur au niveau de l'appareil judiciaire?
Et je crois il y a deux jours, l'organe de la justice, la Cour suprême de justice, a demandé à tous les magistrats ayant pris les dossiers délibérés de pouvoir les prononcer dans un délai pratiquement aussi de 8 à 10 jours si la mémoire ne me trompe pas. Et la réforme de la justice, c'est d'abord commence par la personne, puisque c'est là que je ne partage pas le point de vue du magistrat Sambaï, qui est président du tribunal du commerce auquel il a fait allusion. Et d'abord, c'est la personne. Il faut avoir la conscience professionnelle. On ne peut pas justifier un certain comportement anti-patriotique puisqu'on n'a pas mangé. Et c'est lui qui est, semble-t-il, véhiculé, qui est touché un peu à tout, ne peut pas arriver à dire le droit par le fait qu'il n'y a pas du papier, il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire. Alors, à quoi sert d'être jugé si on estime que le jour on ne sera pas servi par l'État, on ne sera pas accompli sa tâche? Et le problème est que nous avons ça dans tous les domaines. Il n'y a pas que la justice qui a des problèmes. Et l'État est en train de se battre pour pouvoir réorganiser les choses. Et pour que la justice fonctionne, il faut relever deux choses. La première, c'est qu'il faut mettre en application les dispositions constitutionnelles, c'est que nous avons sur la constitution promulguée depuis il y a deux ans, je crois. Et ensuite, il faut appliquer la loi qui a été promulguée. Mais il faut aussi, et surtout, rechercher les hommes qui ont la conscience. Parce que Maître Mukendi a parlé de la sélection des magistrats. Je crois que d'ici peu, il les connaît très bien. Et que le ministère de la Justice va devoir organiser un concours pour le recrutement des nouveaux magistrats. Mais si, en justifiant des comportements autres que ceux-là que le ministre a identifié, si on peut justifier le mal par le simple fait qu'on n'a pas suffisamment de ressources, parce qu'il ne dit pas qu'il n'y a absolument rien, mais il estime qu'il y a quelque chose, il faudrait compléter, et je crois que c'est le travail qui doit se faire au niveau du budget de l'État. Et tout est presque aujourd'hui, vous avez vous-même dit, monsieur le journaliste, qu'il y a de magistrats qui roulent, et ils peuvent justifier aujourd'hui que quelqu'un qui a 1 500 $ de salaire dispose d'une voiture qui coûte 30 000 $. C'est inacceptable. Je crois bien que nous avons de familles, nous avons des citoyens, de confrères que nous devons protéger, et quel que soit ce que nous avons comme difficulté dans notre pays.
Oui, maître Jean-Joseph Mokendi, pour la réforme, dites un mot d'abord par rapport à la lenteur au niveau de l'appareil judiciaire. Oui. Comment y mettre fin?
Pour des besoins de justice, il faut que l'opinion publique sache que les magistrats ne touchent pas 1 500 $.
Ils touchent combien?
Si au moins ils touchaient 1 500 $, je crois qu'on pourrait être plus exigeant à leur égard.
Ils touchent combien?
Ils touchent vraiment moins que les secrétaires de cabinet d'avocats ou en tout cas, moins que les huissiers dans... Mais c'est exact, moi... Quand vous allez à la justice, même à la Cour suprême, on connaît ce qui est payé. Mmh. Donc là, je pense qu'il y a, je reviens, il y a un problème important. Les salaires de magistrats sont une invitation à la corruption. Mmh. Mais il y a quelque chose de très important, avant de parler de la lenteur, on y revient.
Ouais.
L'intervention du procureur général de Lubumbashi est très bonne. Mmh. Et effectivement, dans le cas de ma profession d'avocat, en plus de cela, l'ordre des avocats à l'Institut des droits de l'homme, et nous avons justement une préoccupation pour lutter pour, dans le cadre de la protection des droits des prisonniers contre justement ces lenteurs judiciaires. Nous avons déjà été au Katanga avec un programme d'assistance et la situation que le ministre, que le procureur général donne, malheureusement, je suis masqué. Il y a 5 ans, c'était exactement la même situation. C'est là où j'ai dit le ministre. Tout ce que le ministre a dit est connu. Notre rapport de l'Institut des droits de l'homme lui a été donné. Mais qu'est-ce qu'il faut faire?
Il faut agir.
Il faut agir. À titre d'exemple, l'Institut des droits de l'homme avait déjà collaboré, comme le procureur général l'a demandé, des chambres foraines, ainsi que le procureur, les magistrats. Mais malheureusement, pour le faire, il fallait que nous soyons financés par un gouvernement étranger.
Alors, pour revenir à la lenteur.
Justement, c'est pour dire que là, maintenant, notre gouvernement devrait pouvoir aller dans le sens. Il est vrai, et je crois qu'il y a des cas qui sont scandaleux. On connaît par exemple, et c'est là où j'ai dit qu'il y a parfois l'instrumentalisation de la justice par la politique. Je vous cite le cas des combattants de Mbujimayi, dont le dossier traîne depuis 8 mois. Devant la haute cour ici pour une mise en liberté provisoire.
Vous parlez des combattants de votre parti?
Oui, les combattants de l'UDPS. Là, on comprend tout de suite que ces gens sont là en détention et tout est fait pour les garder parce qu'ils sont de l'UDPS, mais se dit comment et les autres. Donc là, il y a une instrumentalisation, donc il y a une lenteur voulue. Mais dans d'autres cas où il n'y a pas une instrumentalisation, je crois qu'il est important de pouvoir jouer. Quand nous parlons, le procureur parle des audiences foraines. Quand c'est à Lubumbashi, ça va. Mais si, par exemple, il fallait quitter là-bas, aller déjà à Kipushi, ça demande des moyens de transport. C'est là où nous revenons. Il faut que l'exécutif joue son rôle. Parce que on voit la police à des moyens, à des jours pour poursuivre les personnes.
Mmh.
Mais est-ce qu'on a donné les mêmes moyens au procureur de la République pour poursuivre? C'est là où il faut quand même un minimum de justice. Vous allez poursuivre le procureur de ne pas avoir joué son rôle, mais est-ce qu'on lui a donné le moyen pour faire l'investigation? Et il y a par exemple la police scientifique. Nous sommes un pays où nous avons une police, où nous avons des cadres bien formés, mais qui ne savent pas faire des investigations selon les méthodes modernes.
C'est dû à quoi?
C'est dû au fait qu'ils n'ont pas... Là, vous allez à la police scientifique ici, au casier judiciaire. Vous trouvez des cadres bien formés, mais ils n'ont pas le matériel, ils n'ont pas les appareils de détection. Donc voilà un peu ce genre de problème-là. Ça ne dépend pas de la mauvaise foi des personnes qui sont là. Ça, c'est le rôle de l'exécutif. Mais quelque part aussi, il y a l'instrumentalisation de la politique, comme dans le cas d'Ikoma. Il y a aussi le problème de d'une mauvaise foi de certains magistrats, une invitation, en quelque sorte, à la corruption, qui retient le dossier longtemps pour qu'on vienne le voir. Là, justement, il y a lieu, comme l'a dit le magistrat Sambaï, il y a lieu de pouvoir étudier ces cas. Le premier président de la Cour suprême a donné instruction qu'on puisse vider ces dossiers. Je souhaite bien qu'on commence par la Cour suprême elle-même, parce que la Cour suprême elle-même n'est pas à l'abri de ces lenteurs. Le cas que je vous cite de Dikoma, ça date de 8 mois à la Cour suprême de justice. Alors, je crois que là, c'est une bonne chose.
Merci.
Nous devons nous entraider, nous devons aider notre justice pour que son indépendance soit effective et que cette indépendance donne des résultats pour tout le pays tout entier.
Voilà, peut-être magistrat Samba il va rebondir sur la lenteur, mais nous apprenons de sources proches de l'Assemblée nationale que le projet de loi sur la Cour de cassation est depuis 10 jours en examen à la commission PAJ, politique administrative et judiciaire de l'Assemblée nationale. La même commission se penchera ensuite sur les juridictions des ordres judiciaires, les cours administratives et la Cour constitutionnelle et enfin le Conseil d'État. Que vont apporter alors magistrat Samba et tous ces textes? Vous pensez que ça peut aider dans la réforme de la justice congolaise?
Je suis moins positif. Je pense que la révision ou la réforme de la justice s'impose. Nous avons besoin des magistrats bien outillés, des gens bien formés et parfois même spécialisés parce que cela ne manque pas. Contrairement à ce que les politiciens pensent, je pense que le corps judiciaire est plein de magistrats qu'il suffit simplement d'encourager dans leur œuvre. Ce n'est pas un corps où l'on trouve des ramassis, des gens de n'importe quel niveau, c'est des gens formés, et je pense que cette réforme-là peut contribuer énormément à la bonne administration de la justice, pourvu que ces juridictions soient dotées des moyens de fonctionnement nécessaires. Et je pense que M. Yola Matimoussi encore doit comprendre que je ne défends pas aveuglément les magistrats. Je ne suis pas un suiveur, je ne suis pas un flatteur. Je suis quelqu'un qui parle avec une tête en place. Et voilà pourquoi je dis, encore une fois, que je ne partage pas l'oisiveté ou la corruptibilité de certains magistrats. Je suis opposé à cela. Et j'ai toujours proposé, pour résoudre ce problème-là, le cas de lenteur constaté à Lubumbashi, partout ailleurs, qu'on mette les moyens qu'il faut à la disposition des magistrats, et particulièrement qu'on mette au point les chambres disciplinaires, au lieu d'agir par à coup. Ce qu'on est en train de faire, auquel vous avez fait allusion, ce sont des actions que j'appelle moi de méditation, de médias qu'on fait pour juste faire parler de la justice. Non. Ce qu'il faut, c'est des actions de chaque jour. Le procureur général ne devait pas attendre de descendre sur les lieux après autant de mois. Le procureur de la République ne devait pas attendre. On devait mettre à la disposition de ces magistrats-là les moyens qu'il faut pour descendre régulièrement à la prison. Les moyens qu'ils n'ont pas. Je pense que M. Olam, on donne à ces magistrats-là les moyens qu'il faut pour descendre régulièrement à la Cassapa. C'est plus ou moins 15 ou 20 kilomètres. Le magistrat va y aller comment? En utilisant quels moyens? Et même s'il y va, quelle est la force qu'il a devant le gardien de prison qui obéit au ministre, qui désobéit au magistrat? Donc tout ça, ce sont des actions que nous devons essayer le plus possible de suivre de près pour y mettre la discipline. Moi, je suis partisan de la discipline, des choses bien faites, des moyens qu'on donne à chaque corps de métier, à chaque institution de notre pays, les moyens qu'il faut pour son fonctionnement. Au lieu de faire des discours qui attirent tout simplement les applaudissements politiques, moi, je suis pour une démarche systémique. Qu'on mette les magistrats devant leurs responsabilités, en leur donnant les moyens qu'il faut, qu'on mette l'accent sur l'absence de volonté politique des magistrats, des politiciens, de voir la justice fonctionner, parce qu'en réalité, ces derniers ne veulent pas que la justice fonctionne. Et je pense que M. Benoît le sait.
Oui, vous revenez sur les moyens, comme l'a dit Benoît Yulama, mais je me rappelle avoir déjà reçu dans cette émission Mme Louise Arbour, qui a dit que les moyens ne suffisent pas pour qu'un magistrat puisse être consciencieux, magistrat.
Non, je ne dis pas que les moyens conduisent le magistrat à être conscient. Il ne faut pas extravertir mon discours. Je dis bien que la justice a son prix. Est-ce qu'en Europe, la même dame, elle peut vous dire ça que touche le magistrat français ou belge? Vous savez que le procureur général traîne à ce pays, avait fait un tour dans notre pays. Il proposait une collaboration entre les magistrats de la CPI et les magistrats du Congo. Et il a commencé par me demander combien touchait un magistrat congolais.
Vous lui avez dit combien?
Sur la collaboration, parce que le magistrat de là touchait plus de 10 000 euros. Et quand moi je lui ai dit que le magistrat congolais touchait à peine 50 dollars, il a dit que la collaboration était impossible. Et que cette dame-là ne raconte pas des histoires.
Bon, il a dit quand même. En fait, Maître Mokendi aussi l'a dit, hein, il y a un problème de conscience aussi.
Mais moi, c'est sérieux dans ce que nous disons. Voilà. Ce n'est pas parce qu'on est dans un cabinet politique qu'il faut tout simplement flatter, raconter des histoires.
Alors.
Nous devons aimer ce pays et poser les actes qui peuvent conduire à son développement, à la joie de notre peuple.
Oui, magistrat Samba, une question peut-être à laquelle vous n'avez pas répondu, c'est par rapport aux textes qui sont en examen pour le moment à l'Assemblée nationale.
Je suis d'accord avec la réforme.
Voilà.
Oui, pourvu que. Lors de l'éclatement de la Cour suprême, parce que c'est ça qui est visé, qu'on mette à la disposition de chaque juridiction les moyens qu'il faut pour s'épanouir, pour travailler convenablement. On ne peut pas travailler sans moyens. Mais quelque intelligent que vous soyez, il ne suffit pas d'être intelligent pour faire marcher la justice. Il y a des moyens qu'il faut nécessairement. Ouais. Il faut payer ces gens-là. Il faut payer le matériel pour
les fournisseurs. Je ne sais
pas comment vous concevez-vous les choses.
On vous a entendu, magistrat Samba. Il y a des auditeurs qui continuent à écrire. Mamboura nous écrit de Boutembo. Il pense que la justice au Congo est trop instrumentalisée par les plus forts. C'est pourquoi les plus faibles qui sont toujours poursuivables. Ignace Colosi estime que la majorité des Congolais ignorent la loi et ne la découvrent qu'après la commission d'une infraction. Assongé, Jacques de Bukavu propose une seule solution pour remédier à cette situation, l'octroi d'une indemnité digne aux juges corrompus par la classe noble de la RDC. Dieudonné Ouyer Diou de l'Ituri estime que le ministre a raison car notre justice est vraiment corrompue. Du côté de Réjusco, le coordonnateur général du programme de la restauration de la justice congolaise, Marc Dubois, pour lui, il y a encore un grand travail à faire pour lutter contre l'impunité en RDC. On l'écoute donc au téléphone de Kelly Kouté.
Je ne crois pas qu'il faut réformer de fond en comble le système. La lutte contre l'impunité, elle est en cours. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de travail à faire et qu'il y a toute une série de dossiers que les magistrats ne veulent pas connaître. Mais on espère bien qu'avec les programmes d'appui que nous entreprenons, on aura affaire à une justice de plus en plus indépendante du pouvoir politique et qui acceptera de se saisir de dossiers plus sensibles, mais qui doivent absolument être traités si on veut lutter contre l'impunité dans le pays. Ça sera un travail de plusieurs années, mais il ne faut pas l'abandonner et il faut au contraire le prendre à bras-le-corps et appuyer les juridictions pour leur faciliter ce travail.
Voilà, il ne reste plus beaucoup de temps, Benoît Ayulama, juste pour rappeler que vous êtes juriste et cadre de l'AMP, un mot sur cette justice. Comment faire pour que la justice soit indépendante des politiques?
Oui, et je crois qu'il y a un travail important à faire pour que la justice soit indépendante de la politique.
Mais il faut souligner qu'elle ne soit pas sous l'influence.
Oui, ben il faut souligner qu'à travers le monde, il y a toujours un problème entre politique et justice. Et il n'y a pas longtemps, par exemple en France, vous avez entendu le président Sarkozy qui a déjà amorcé les débats pour pouvoir changer, réduire les compétences accordées aux inspecteurs dans son pays. Donc, il y a nécessité de contrôler, puisque si on demande qu'il y ait suffisamment de moyens pour travailler, on ne peut pas laisser au seul magistrat de faire le droit et de dire n'importe quoi. Il faudrait contrôler. Les contrôles sont bien nécessaires, puisque pour qu'il y ait une sanction positive ou négative, il faudrait qu'il y ait le contrôle. Et la responsabilité des comportements des magistrats, que ce soit un comportement positif ou des sanctions positives ou négatives qu'ils accordent aux nombreux citoyens qui passent devant la justice, retombe sur les politiques. Ce sont les politiques qui prennent en charge tout ce qu'ils auront posé comme acte. Donc il y a nécessité que nous puissions prendre en considération une collaboration entre ces organes pour l'avancement de notre jeune république.
Oui, Benoît Ayulama, en 15 secondes, parce qu'on a presque plus de temps, là, je vais paraphraser le président Joseph Kabila, c'est dans son discours d'investiture en décembre 2006. J'ai annoncé la fin de la récréation sous toutes ses formes et la fin de l'impunité à quelque niveau que ce soit. J'entends avertir que les prisons de l'État sont ouverte à tous ceux qui se mettront en travers de la loi. Vous pensez qu'on est déjà arrivé à ce niveau, dans cette vision du chef de l'État?
On n'est pas encore arrivé. C'est le travail que tous les ministres qui sont en train d'être utilisés au ministère de la Justice sont en train de faire. Je crois que nous allons certainement arriver et la volonté du chef sera accomplie et c'est ça le souhait de tout le peuple congolais.
En 30 secondes, maître Jean-Joseph.
En 30 secondes, je veux dire que justement, il est important que nous puissions poursuivre le travail et pas continuer à lancer des idées. Le problème de la justice à deux vitesses ou la justice privatisée. C'est un problème d'abord de la volonté politique de l'autorité pour qu'une justice soit réellement indépendante. La justice ne doit pas être instrumentalisée. Il faudrait pas que les personnes soient punies pour leurs intérêts, leurs opinions politiques, comme c'est le cas que nous avons avec nos combattants de l'UDPS du Coma. Et puis après, en bref, je peux dire, on a déjà le texte. C'est comme si on a construit l'engin cosmonique pour aller. Mais maintenant, il faut former l'astronaute. Là, il faut mettre beaucoup d'accent maintenant pour la formation, le recrutement, la formation des magistrats et leurs conditions matérielles et les conditions de vie. Merci beaucoup.
Oui, magistrat Tamba, un mot, vous n'avez que 5 secondes.
Un mot, pourquoi 5 secondes, je dois avoir autant de secondes.
C'est la fin de l'émission.
C'est pour vous dire que j'invite le peuple congolais,
merci,
les intellectuels,
la fin.
Les génies, les consorts et surtout les politiciens,
oui,
à se mettre en dessous de la loi.
Merci beaucoup, c'est la fin de l'émission. Je suis désolé, je dois vous couper. C'est la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis.